À ouvrir votre Bible, hein, l'épître de Paul à Éphésiens. Alors aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, c'est le dimanche de la fête des pères. Alors je ne sais pas si vous avez été à la fête, comme je le disais ce matin, on ne parle pas beaucoup de la fête des pères, ou alors on ne fête pas forcément beaucoup parce qu'on estime qu'ils sont déjà à la fête tout au long de l'année. Donc c'est plutôt les mamans que l'on fête un peu. La Bible parle à la fois des mères, parle des pères, parle des enfants et parle de la famille. Alors, je ne veux pas simplement parler de la fête des pères dans ce sens-là, mais profiter de cette occasion pour parler de la relation qui existe entre, qui doit exister entre les enfants et les parents. Les enfants et les pères, et de manière générale, les enfants et les parents. Et donc, la Bible nous en parle de manière précise, et donc c'est bon pour nous, chers frères et sœurs, chers amis, de s'arrêter pour considérer avec beaucoup d'attention ce que l'Écriture nous dit. Donc, nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 1. Jusqu'au verset 4, les quatre premiers versets, Éphésiens 6, versets 1 à 4. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors, le titre de notre message ce matin, c'est « Les devoirs réciproques des parents et des enfants ». Les devoirs réciproques des parents et des enfants. Et quand j'ai préparé ce message, je me suis dit « Bon, on va voir ces quatre versets ensemble ». Et puis, je me suis rendu compte que ça demande trop de temps. Donc, on va aujourd'hui considérer les devoirs des enfants envers les parents. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, les devoirs des parents, la responsabilité des parents envers leurs enfants. Et donc, dans le texte que nous avons lu, il se situe dans un ensemble de textes où l'apôtre Paul parle de relations, dans le chapitre 5, fin du chapitre 5, de relations entre les maris et les femmes. Et puis, après les versets que nous avons lus, verset 5, ça commence tout de suite avec « Serviteurs, obéissez à vos maîtres ». Donc, la relation entre serviteur et maître, hein, on pourrait dire ouvrier, patron, si on veut ramener ça à quelque chose de plus actuel. Donc ici, dans toute cette section, l'apôtre Paul traite de la question de l'autorité, en fait, hein, et de la structure d'autorité qui existe dans le foyer, et aussi dans la société, dans le domaine social. Et on sait que de nos jours, hein, la relation parent-enfant est devenue des plus conflictuelles. C'est quelque chose qui est de notoriété publique. Et même on dit souvent, bon, c'est normal, il faut que la jeunesse se fasse et qu'elle se passe. Et donc, c'est normal qu'il y ait des conflits générationnels et que les jeunes soient un peu en conflit avec les parents. C'est un mauvais moment à passer, mais l'Écriture ne parle pas de cette manière. Elle nous exhorte à une attitude particulière. Elle exhorte à la fois les parents et aussi les enfants. Et si nous regardons bien notre texte, il dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur » et puis au verset 4 « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Donc, il y a une responsabilité, un devoir qui est attendu de la part des enfants, et un devoir qui est attendu par Dieu de la part aussi des parents. Les parents aujourd'hui, parfois, ne savent plus comment gérer leurs enfants. Je lisais qu'il y a même des écoles pour apprendre à être parent. Comment être parent? Comment faire? C'est pas évident pour beaucoup, hein, et les ados ne veulent plus, parfois, des parents. On ne veut plus les avoir sur le dos. On a beau s'appeler des ados, on ne veut pas les avoir sur le dos. Qu'ils nous lâchent un peu, parfois, hein, l'expression « lâche-moi les, basket. Certains disent à leurs parents, des ados disent à leurs parents. Et donc, on voit qu'on est vu dans une société où les rôles sont inversés, même au sein de la famille. Hein. Les jeunes prennent de plus en plus d'autorité, parfois, et les choses se passent très très mal. Hein. Je lisais des interventions de parents qui étaient presque aux abois, ne sachant pas comment faire avec leur progéniture. Et des fois, c'est avec des enfants de 5 ans. Des enfants de 5 ans, ils n'arrivent pas à les canaliser, ou des enfants de 12, 13, 14 ans, qui, une mère disait par exemple, voilà, si je regarde une émission à la télévision, il rentre et il change la chaîne, comme ça, pour mettre ce qu'il a envie de regarder, et puis elle dit, bon, voilà, et si je dis quelque chose, il me dit, t'as qu'à enregistrer ton émission sur le magnétoscope, et tu regarderas après, et elle dit, je sais pas quoi faire, alors, pour éviter les conflits, je dis rien, dit-elle, je dis rien. Et c'est pas un cas isolé. Il semble que ce soit beaucoup le cas, et beaucoup de psychologues et de pédopsychiatres se sont penchés même sur la question et tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on est en train d'aller quelque part dans le mur. Mais l'Écriture, on le voit ici, place la relation qui existe entre les parents et les enfants dans une structure d'autorité d'emblée, dans laquelle chacun a un rôle et des fonctions qui sont précisément défini. Et lorsque l'on déroge à la règle établie par Dieu, lorsque l'on ne respecte pas l'ordre établi par Dieu, lorsqu'une partie n'obéit pas au commandement que Dieu a donné, eh bien, cela conduit inévitablement au désordre. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je veux juste considérer peut-être la question des devoirs des enfants envers les parents. Donc, nous lisons encore ce verset. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » La première chose, je pense, à laquelle, en tant qu'enfant, je voudrais dire, en tant que parent aussi, notre attitude est attirée, c'est sur la place relative des parents et des enfants. La place unique, je vais dire plutôt comme ça, que Dieu assigne aux parents dans la relation parent-enfant. Il n'est pas dit « enfant, obéissez », mais « obéissez à vos parents ». D'accord ? Donc il y a quelque chose à voir avec quelqu'un qui est dans une certaine position. « Honore aussi ton père et ta mère ». Et donc la responsabilité des enfants consiste à reconnaître la place unique des parents. Et c'est la première autorité qu'ils vont avoir à affronter sur la terre. Quand un enfant vient au monde, la première structure qu'il trouve, qu'il doit trouver normalement, c'est celle des parents, père-mère. Bon, maintenant, c'est vrai que ça arrive que les situations font que parfois ils trouvent qu'un seul parent, mais peu importe, ils trouvent un parent. Hein. Ils trouvent un père, ils trouvent une mère. Et c'est là que il va avoir le premier contact avec l'autorité. Et donc les parents sont placés au-dessus des enfants et pas en dessous ni au même niveau. Ils sont placés au-dessus des enfants dans une relation, une hiérarchie qui est hiérarchisée. Hein. Il n'y a pas de relation d'égalité, ni de fonction, ni de droit. Ce n'est pas la même chose. Les parents sont placés dans une position par Dieu et les enfants doivent reconnaître cette position. Les enfants dans une autre position. Et de nos jours, de plus en plus, on voit que les enfants sont devenus des êtres avec lesquels on discute parfois d'égal à égal. Ce n'est pas biblique. D'égal à égal. Un parent s'interroge, j'ai vu cela sur un site, il dit, en parlant de ses enfants, il dit, ils n'obéissent pas, ils se comportent comme vos égaux, sont connectés à longueur de journée, collés à leur MP3 et n'ont aucun respect pour vous. Et ça, on le voit, hein, on le voit dans, pas seulement dans les relations familiales, dans les relations scolaires, parfois dans les relations, dans d'autres milieux professionnels où les structures d'autorité ne sont plus respectées. Et on estime que maintenant, il n'y a plus, j'ai entendu cette expression, il n'y a plus de verticalité, il n'y a que de l'horizontalité. Et que la jeunesse, les jeunes travailleurs, même adultes, je veux dire d'aujourd'hui, n'acceptent plus quelque chose qui descend d'en haut. On veut que ça vienne de manière horizontale. Ça n'est pas biblique. Ça n'est pas biblique. Dieu a établi dans le foyer la première structure. Même dans la Trinité, il y a une structure, hein, il y a une égalité, mais il y a une structure de subordination qui est entre le Père aussi et le Fils. Hein. Et donc, c'est important pour nous de considérer que l'Écriture insiste sur cette différence qu'il y a, positionnelle, qu'il y a entre les parents et les enfants. Et n'inverse pas les rôles. On vit dans une société où les rôles sont maintenant, non seulement on parlait d'égalité, on discute d'égal à égal avec les parents, mais maintenant c'est complètement inversé. Maintenant ce sont les enfants qui tiennent les rênes et qui commandent bien souvent et qui donnent des ordres et qui servent d'exemple. Je lisais dans un magazine qui titrait ainsi « Les ados, ces nouveaux petits adultes qui prennent le pouvoir ». Et l'auteur continue, il dit « Ils sont devenus des entrepreneurs à succès, des activistes invités jusqu'à l'ONU hein, ». Si vous regardez les actualités, vous vous souvenez bien, il y en a qui sont invités à l'ONU. De nouvelles icônes de la politique et du spectacle. Ce temps-ci, dit, les ados oublient de faire leur crise, trop occupés à servir de modèle aux adultes, ces vieux irresponsables. C'est-à-dire, et je pense que si vous faites attention aux informations, vous allez voir que maintenant il y a pléthore de jeunes ados qui donnent des leçons aux adultes. Qui donne des leçons aux adultes. Comme dit dans ce texte, il dit, ce sont des vieux irresponsables. Pourquoi irresponsables? Parce qu'ils ont pollué la planète et qu'ils vont nous léguer une planète polluée. Je leur en veux. Et j'ai vu une jeune fille dire cela une fois à un monsieur d'âge mûr, plus âgé que moi, en lui disant, vous avez pollué notre planète. Je vous en veux. Je vous en veux. Et le monsieur qui disait, oui, c'est vrai, on a renversé les rôles. Les jeunes se dressent en donneurs de leçons à leurs aînés. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit ici. Il y a une position qui doit être reconnue pour les parents. Et ces personnes qui donnent des ordres de manière publique sur la planète entière à ceux qui ont vécu avant eux, je serais étonné si on me disait qu'ils sont soumis à leurs parents à la maison. Je ne crois pas. Parce que s'ils l'étaient, ils ne le feraient pas à l'extérieur. Et donc nous devons être conscients de cela déjà dans le foyer, dans nos foyers, que les parents ont une place particulière et nous avons à avoir envers eux une attitude particulière, celle que l'Écriture nous donne ici. Alors, deuxièmement, quel est ce devoir en rapport avec cette place donnée aux parents? Nous relisons notre texte, il dit « enfant », et quand il dit « enfant » ici, il ne parle pas que des petits-enfants, il parle des enfants, le sens c'est les descendants, donc pas seulement les jeunes les enfants, mais les descendants, nous tous, quoi. Nous sommes des enfants, puisque nous sommes là, nous sommes bien enfants de quelqu'un, hein. Et nous sommes appelés, d'une certaine manière, globalement, à obéir et à honorer. Alors, on va voir un petit peu, on va décortiquer ça un petit peu. Mais ici, il dit que la responsabilité des enfants à l'égard de leurs parents, c'est d'obéir à leurs parents, selon le Seigneur, car cela est juste, et d'honorer son père et sa mère. Alors, l'obéissance et l'honneur sont les deux choses qui sont les responsabilités premières. Donc, vous êtes enfant dans cette salle, vous avez devoir d'obéissance et d'honneur. Et ce devoir n'est pas donné par vos parents, il n'est pas donné par les autorités gouvernementales, il est donné par le Maître et le Seigneur de l'univers. Il vous dit, vous, enfants, vous devez obéir à vos parents. Et vous devez honorer vos parents. Et nous devons entendre ce message de Dieu lui-même. C'est pas la société qui nous dit ça. C'est pas les mœurs, c'est Dieu lui-même qui nous donne ce commandement. Et il dit, obéissez. Qu'est-ce qu'obéir? Obéir a le sens, premièrement, d'écouter. D'écouter, de prêter l'oreille et de faire attention à ce qui se dit. Faire attention à ce qui se dit. Alors, si vous lisez dans le livre des Actes, vous vous rappelez peut-être que, à un moment donné, Pierre était en prison, et puis il est délivré de la prison, il va taper sur la porte de la maison où se trouvaient les disciples réunis, qui étaient en prière pour sa délivrance, et il y a une servante qui s'appelle Rod, qui vient, qui court à la porte, et elle écoute pour savoir qui était là. C'est cette attitude qui consiste à être attentif et à prêter l'oreille. Autrement dit, obéir, quand on est pour un enfant, c'est écouter d'abord ce que disent les parents, papa ou maman. Écouter, prêter l'oreille. Souvent, on fait comme si, cause toujours, tu m'intéresses. Hein, et on regarde ailleurs, etc., pour montrer que ça ne nous intéresse pas du tout. L'attitude que Dieu exige ici, c'est une attitude dans laquelle on regarde ses parents, on écoute attentivement ce qu'ils ont à nous dire, et après, on applique ce qu'ils nous demandent. On écoute et on applique ce qu'ils nous demandent. C'est ça l'obéissance. C'est de faire, de se soumettre et de faire ce que les parents nous demandent. Alors, je laisse à votre réflexion cette question. Combien de fois avez-vous écouté attentivement et fait ce que vos parents vous ont demandé de faire? Bien sûr, obéir ne veut pas dire obéir de manière quelqu'un absolue. Quelqu'un va dire, ouais, mais si mes parents me demandent de faire quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien, qui est foncièrement mauvais, est-ce que je vais le faire? Comme les gens qui vous posent des questions, vous voyez, des fois, ils vous disent, ouais, la Bible dit de ne pas mentir. Mais imagine que tu te retrouves dans la Seconde Guerre mondiale. Et puis que tu as des juifs cachés chez toi. Et que l'autorité vient te demander si tu as des juifs cachés chez toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, est-ce que tu es dans cette situation? Non. Alors ne te pose pas des problèmes dans lesquels tu seras peut-être jamais. Donc quand quelqu'un dit, et si mes parents me disent de mauvaises choses, il dit, bon, c'est un cas marginal, ça peut arriver. Mais franchement, les parents qui demandent à leurs enfants de faire des mauvaises choses, fondamentalement mauvais, je peux vous assurer que même chez les non-chrétiens, ça n'existe pas tellement. Ça peut arriver, mais ça n'existe pas tellement. Ils peuvent dire, bon, dis que je ne suis pas là, des choses comme ça. Vous dites, non, bah, ok. Mais franchement, Jésus, même Jésus dit que le père pécheur tel qu'il est donne de bonnes choses à ses enfants. Il ne donne pas un scorpion quand il demande un poisson. Il donne de bonnes choses. Donc, ne nous tourmentons pas pour essayer d'échapper à la vérité en nous posant des cas extrêmes qui ne vont jamais nous occuper. Okay? Alors, bien sûr, s'il est question de faire quelque chose de mauvais, faut pas obéir à faire des choses mauvaises. Si le parent dit saute par la fenêtre, tu vas pas sauter par la fenêtre. Mais je pense pas qu'il va te demander ça. Okay? Cependant, dans les 99,9 autres pourcents de cas restants, tu dois obéir, écouter et faire ce qu'il demande. L'obéissance, c'est la volonté de Dieu pour l'enfant envers ses parents. Paul dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et cette obéissance aux parents se manifeste vraiment, elle manifeste l'obéissance que l'on a au Seigneur. Si on prétend être un enfant de Dieu, même grand, eh bien, on doit avoir cette attitude d'honneur, hein, aussi on va le voir plus tard, envers les parents. Si on prétend tout jeune être un enfant de Dieu, eh bien, on doit avoir cette attitude d'obéissance envers ses parents. L'obéissance envers les parents témoigne que l'on obéit au commandement de Dieu. Ce que l'on fait. Hein. Et si vous lisez l'épître aux Colossiens, parallèle à cela, l'apôtre Paul dit souvent dans le Seigneur, pour le Seigneur, comme au Seigneur, dans toutes les relations qui régissent le couple et la famille. On le fait parce que on cherche à obéir au commandement du Seigneur. Quand on obéit aux parents, on obéit au commandement qui nous sont donnés par le parent, mais ce faisant, en fait, nous obéissons d'abord à Dieu. Parce que c'est lui qui nous demande d'obéir. Donc il faut être conscient de cela, de ce commandement d'obéissance, c'est un commandement qui vient de Dieu, et que obéir, écouter, puis faire, c'est honorer Dieu et être obéir à sa parole. Et la Bible souligne, on n'a pas le temps de lire tous ces passages, mais vous pouvez chercher des passages où souligne l'importance de l'obéissance que les enfants doivent avoir envers leurs parents, en soulignant la condamnation qui repose sur ceux qui n'obéissent pas à leurs parents. Il y a même un exemple dans la Bible où il est question que les parents pouvaient, pour un fils qui était rebelle, l'amener aux portes de la ville et il pouvait être lapidé. Mais écoutez ce que Proverbe 30, verset 17 dit. Il dit que l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. Vous voyez ça? Proverbe 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et l'aigle, les petits de l'aigle le dévoreront. Pour montrer la condamnation, le danger que courent ceux qui se détournent de cette obéissance. Et j'étais surpris de voir, en cherchant un peu, le taux élevé de suicide chez les jeunes. Et un des spécialistes qui étudie ces phénomènes disait, liait un petit peu cela à l'absence de contraintes que les jeunes avaient dans les foyers, le fait qu'ils n'étaient pas contraints de faire ceci ou d'obéir aux parents. C'était pas un chrétien qui disait ça, c'était des gens qui étudiaient la petite enfance un petit peu, hein. Les enfants, les jeunes, les ados, avec cette liberté qu'ils avaient de faire, les droits qu'ils avaient de faire ce qu'ils voulaient, hein, eh bien, il dit que ça a entraîné un certain malaise. Il y a beaucoup qui, à cause de ça, se suicident. Je ne pensais pas que le suicide était lié à cela. Mais il y a des fois des conséquences qu'on ne mesure même pas. Il nous faut être attentifs à cela. Écoutez ce que dit le pasteur du 19e siècle, Adolphe Mounod. Il dit ceci. Il dit Saint Paul, en parlant de ce passage-là, écoutez bien, parce que c'est très important la manière avec laquelle il le dit. Il dit, Saint Paul résume toutes les obligations de l'enfant chrétien envers ses parents dans l'obéissance. Il dit, c'est que l'obéissance dépend toute l'éducation, et de l'éducation dépend la condition de la société tout entière. Cet esprit d'insubordination dont chacun se plaint aujourd'hui, il écrivait ça il y a longtemps, et c'est encore vrai aujourd'hui, cet esprit d'insubordination dont chacun se plaint aujourd'hui et qui relâche tout lien doit être attaqué dans son principe, c'est-à-dire dans la maison paternelle. Dans la maison maternelle. La maison familiale, si vous voulez. Il dit, pour que cela puisse porter du fruit, et celui-là sera le mieux préparé pour respecter l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, dont l'esprit aura été plié de bonne heure à l'autorité paternelle la plus forte et la plus salutaire qui soit au monde. Il dit que ceux qui vont respecter l'autorité ecclésiastique, gouvernementale, sociétale, sont ceux qui auront été, dès leur jeune âge, contraint et discipliné fermement, avec amour bien sûr, par des parents dont qui auront appris à l'enfant à respecter l'autorité. Toute la révolte à laquelle on assiste, alors bien sûr, les gouvernements ne font pas les choses comme il faut, les policiers ne font pas les choses comme il faut, parce qu'il y a des pécheurs partout, et même dans les églises on ne fait pas les choses comme il faut, parce qu'il y a des pécheurs partout. Mais, chers frères et sœurs, ce que Dieu nous demande, c'est de respecter les autorités. Quand on jette un caillou sur un policier, on ne respecte pas l'autorité. Et on ne donne pas un exemple. On peut comprendre, on peut expliquer qu'on a des rails, etc. Tout, oui, d'accord. Mais si on apprend l'autorité dès le foyer, d'accord, je vous assure qu'il y aura moins de gens qui font la révolte dans la rue. Je continue la lecture de cet auteur. Il dit ceci. Il dit que les familles chrétiennes se conforment exactement à l'ordre de Dieu, non aux maximes du siècle. Un enfant obéissant au sens de l'Écriture sera accusé d'un enfant, d'un défaut d'indépendance. Et c'est vrai, on va dire, votre enfant, tu obéis. Il n'est pas indépendant, cet enfant-là. Il est renfermé sur lui-même. Il doit obéir encore à ses parents. Ça, c'est du siècle dernier. Et il ajoute, un père exerçant son autorité selon l'Écriture, alors selon l'Écriture, c'est dans le Seigneur avec amour et sagesse, hein, selon l'Écriture, eh bien, il sera accusé de rigueur et d'abus de pouvoir. Mais il ajoute, n'importe. C'est à Dieu que nous devons rendre compte et non aux hommes. Et non aux hommes. Alors, si vous êtes un enfant, vous voulez obéir à vos parents, vous serez peut-être critiqué. On va vous dire que vous êtes... hein? Et si vous êtes un parent qui exerce l'autorité, on va vous dire, voilà, vous êtes un abus de pouvoir. Vous ne respectez pas les droits de l'enfant. La convention qui a été signée en 1989 des droits de l'enfant. Vous ne... okay. Mais cela ne doit nous importer peu si nous agissons selon la parole de Dieu, avec sagesse et amour. L'obéissance. Deuxièmement, l'honneur. Ici. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'apôtre Paul cite ici le sixième commandement que nous avons étudié pendant le temps de confinement. Je pense que vous vous en souvenez. Exode chapitre 20, verset 12. Et honorer, ici, ça veut dire quoi? Alors, on avait dit obéir, c'est écouter, puis faire ce que les parents nous demandent. D'accord? Alors, honorer, l'obéissance est inclus dans l'honneur. En obéissant à ses parents, l'enfant honore ses parents. Mais ce n'est pas que cela, honorer. Honorer contient l'idée de fixer la valeur, de fixer le poids de quelque chose. Et donc, il y a l'idée de donner du poids à ses parents, leur donner leur galon, leur lot de galons, ainsi. Donc l'honneur englobe bien sûr l'obéissance que l'enfant doit à ses parents quand il est jeune, et puis quand il devient adulte, eh bien l'expression de l'honneur change avec l'âge. D'accord? Alors bien entendu, il n'est pas question que dans sa vie d'adulte, quand je dis adulte, adulte, il est chez lui, il vit chez lui, etc. Là, ses responsabilités, parfois il est marié, il a des enfants, qu'il soit en train d'obéir strictement à ses parents. On a vu l'obéissance sous deux aspects, c'est-à-dire on écoute et on accomplit. Il a toujours le devoir d'écouter. Première phase d'obéissance. C'est-à-dire quand, même si j'ai 58 ans, si ma mère, mon père n'est plus là, si ma mère me parle, je dois l'écouter. Je dois porter attention à ce qu'elle me dit. C'est une marque de respect et d'honneur par rapport à la position qu'elle a. Je dois l'écouter. Après, si elle me dit, fais ça, je peux pouvoir dire, non, ça, je ne peux pas faire cela, c'est pas comme ça que je vois. D'accord, on a une discussion qui est différente. Et d'ailleurs, les parents qui ont des enfants qui ont grandi, ils ne disent pas ça non plus, tellement, hein. Ils disent, bon, moi, j'aurais fait comme ça, mais en fait, tu décides, hein. On est dans une discussion qui est différente. On n'est pas dans une discussion d'égal à égal, c'est toujours ma mère. Toujours ma mère. Mais la relation est différente. Pas tenu de faire systématiquement ce que les parents disent. Donc si on est marié et que le parent dit, voilà, son fils fait ceci, il le fait, puis sans consulter sa femme, et sa femme lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Et puis le mari il dit, ben, c'est écrit ici, enfant, obéissez à vos parents, j'obéis à ma mère, ou à mon père. Ça passe pas trop, vous voyez, hein? Ça passe pas trop. Ok? La Bible dit, comme je disais tout à l'heure, la femme va dire, mais lis les quelques versets d'avant, chapitre 5, et tu verras que l'apôtre Paul dit, l'homme quittera son père et sa mère, pardon, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, il quitte une relation initiale, père-mère, et puis il s'installe dans une autre relation, mari et femme. D'accord? Donc maintenant, l'autorité suprême, c'est Dieu sur lui. Après, eh bien, il y a une certaine structure d'autorité dans le foyer, et puis la cellule familiale initiale, eh bien, s'est détachée d'elle. Il y a toujours une relation, mais qui n'est pas du même ordre. Par contre, le respect demeure dans cette relation-là. Donc, quand on grandit en âge, quand l'enfant grandit en âge, on pourrait dire que l'expression de l'honneur change. Au début, c'est de l'obéissance pure et simple. Et après, il y a toujours l'écoute et le respect qui continue. Et comment cela se manifeste? Une manière particulière dans laquelle cela se manifeste, c'est que l'enfant devenu adulte doit prendre soin de ses parents. Écoutez ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 5 verset 4, il dit « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Donc là, nous sommes tous dans ce cas. Peut-être que nos parents ne sont plus là, mais peut-être qu'ils sont encore là. Nous avons à prendre soin de nos parents. S'ils sont dans le besoin, qu'ils ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à leurs nécessités matérielles, nous sommes tenus bibliquement par Dieu lui-même de nous occuper de nos parents. De nous occuper de nos parents. Et ici, Paul prend le cas où il faut s'en occuper financièrement. Parce que dans l'église, il y avait des veuves qui étaient vraiment veuves, qui n'avaient plus d'enfants du tout, et il fallait s'en occuper, l'église devait les prendre en charge. Et il dit, et Paul dit, attention, on va faire la différence entre celles qui n'ont aucun moyen de subsistance, personne pour s'occuper d'elles, pas de membre de la famille, et puis ceux qui ont encore des enfants ou des petits-enfants. Si tel est le cas, que les enfants et les petits-enfants, avant tout, vous avez vu cela, avant tout, exercent la piété envers leur propre famille. Ça veut dire quoi? Souvent, quand on parle de piété, à quoi on pense? On pense au fait de servir le Seigneur, pas moi, faire des choses à l'église, aller distribuer des traités, prier. Tout cela, c'est bien. Il faut faire ces choses. D'accord? Mais Paul met le doigt sur quelque chose que l'on oublie souvent et qui est la piété même. Il dit que ces enfants exercent avant tout la piété envers leur propre famille en rendant à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. En n'oubliant pas tout ce que les parents, c'est 20 ans, on pourrait dire, à peu près, hein, et encore parfois c'est plus long que ça, où les parents se sont occupés des enfants, maintenant ils sont dans un âge avancé, ils sont peut-être dans le besoin, vous devez vous occuper d'eux. Et ça, c'est la piété, que Dieu, qui est agréable, il dit même, car cela est agréable à Dieu. On peut passer son temps à prier, à faire des choses, à prêcher, à distribuer, à parler, et puis négliger ses parents. Et Dieu dit, non, ça n'est pas la piété. La piété commence d'abord par prendre soin de ses parents. Et Jésus a eu la discussion avec les pharisiens de son époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, les pharisiens sont venus un jour, ils disent à Jésus, « Ah, pourquoi tes disciples n'observent pas la tradition de nos pères ?» Et Jésus leur répond, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de la tradition ?» Alors, parfois, on peut avoir des traditions, hein, distribuer, prêcher, etc. Ça peut devenir des traditions que l'on développe. Des bonnes choses peuvent devenir des traditions. Et ces choses deviennent au-dessus de l'obéissance au commandement de la parole de Dieu. Et c'est exactement ça qui est arrivé avec ces pharisiens. Et vous savez sur quel point Jésus met le doigt quand il leur dit ça? Sur ce dont on parle aujourd'hui, l'honneur que l'on doit aux parents. Écoutez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 15, je vous lis, versets 3 et 5. Il dit, Jésus répond donc à ces pharisiens, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, » et là il met le commandement de Dieu en avance, « Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » C'est Dieu qui a dit ça. Et Jésus ajoute, « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Alors que les pharisiens ils disaient, « Voilà, moi, je donne peut-être, la dîme, je donne des choses, etc. Et je peux plus maintenant m'occuper de mes parents. » Parce que ce avec quoi j'aurais pu les assister, je l'ai offert à Dieu. Donc si je fais comme ça, je ne suis pas tenu d'honorer mes parents. Parce que, après tout, c'est Dieu que je sers. Et Jésus dit non. Là, vous vous trompez. Vous vous trompez ici. Le commandement de Dieu, c'est que tu honores ton père et ta mère. Et Paul dit, la piété commence premièrement avec les gens de la famille. Tu dois prendre soin de tes parents. Et Paul ajoutera même ceci, il dira que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle ou qu'un incroyant. Voyez, c'est quand même quelque chose d'important ici, hein? C'est très important l'honneur que l'on doit aux parents. Proverbe 23, verset 22 dit ceci, « Écoute ton père !» D'accord ? Premier point de l'obéissance, « qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Écoute ton père, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Honore-la. On a un exemple parfait de cela dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était un enfant, 12 ans, il y en a à 12 ans, ils commandent déjà leurs parents. Mais quand Jésus avait 12 ans, Luc chapitre 2 nous dit qu'il s'est retrouvé à un moment donné, après la fête de Jérusalem, avec les docteurs dans le temple à discuter. Ses parents l'avaient pas oublié, mais bon, ils sont partis, ils pensaient qu'ils suivaient, et puis finalement, ils n'étaient pas là. Et donc, deux jours après, ou quelque chose comme ça, ils voient qu'il n'est pas là, ils retournent le chercher, ils le trouvent dans le temple avec les docteurs, et Jésus, Marie dit, mais ton père et moi, nous te cherchions. Et Jésus dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais la Bible dit qu'il est retourné avec ses parents, verset 51, je crois, et il leur était soumis. Il leur était soumis. Il discute avec les docteurs, mais il est soumis à ses parents quand ils viennent le chercher. Il obéit. La Bible dit même qu'il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais plus tard dans sa vie, dans son ministère, eh bien, il y a eu un des épisodes où les parents de Jésus sont venus le chercher. La Bible ne dit pas qu'il est parti avec eux. À un moment donné, les parents même pensaient qu'il était hors de sens et il dit qu'ils sont venus pour se saisir de lui. Ils ne l'ont pas saisi. En tout cas, le texte ne le dit pas. Et ailleurs, ils voient encore que des personnes viennent voir Jésus et puis lui disent « Ta mère et tes frères te cherchent !» Et puis il dit « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et puis il montre des gens, ceux qui font la volonté de son père ici. Ce n'était pas du mépris, mais il était arrivé à un âge où il devait faire des choses. Il était dans un ministère où il devait accomplir ce ministère. Mais quand il était dans le point le plus extrême de sa vie, à la croix, rappelez-vous de ce qu'il a fait concernant sa mère. Il a dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », en présentant l'apôtre Jean. Et fils, voici ta mère. C'est une manière de prendre soin de sa mère. D'accord? Il l'a amené. Il l'a pris soin, il l'a amené auprès de Jean et Jean auprès d'elle pour que Jean puisse s'en occuper. Imaginez dans une extrême souffrance, Jésus, dans un besoin, on pourrait dire, peut-être même de soulagement le plus grand, au point le plus bas, il a souci de sa mère. Il a souci de sa mère. Et il le confie aux disciples qu'il aimait. Parfois, nous sommes tellement occupés, n'est-ce pas, que nous n'avons pas le temps de nous occuper de nos parents. Comme dit quelqu'un, on savait qu'ils étaient... On venait les voir quand on a besoin de sous pour faire ceci ou faire cela, faire des études, faire ceci, faire cela. Et puis une fois qu'on arrive on a tout ce qu'il nous faut, on finit par les oublier, n'est-ce pas? Oh, que Dieu nous garde de cela, chers amis. Honorer ses parents, c'est leur obéir quand nous sommes enfants, mais c'est toujours les estimer quand nous sommes devenus adultes. Parlez d'eux en bien. Comment est-ce qu'on peut faire parler de ses parents comme il faut, leur donner de la valeur aux yeux des autres, subvenir à leurs besoins matériels s'ils sont dans ce besoin matériel, les visiter, leur écrire, leur parler. On peut pas rester en disant, moi je sais pas ce qu'ils font, ils mènent leur vie, moi je mène la mienne. Pas possible. Et moi, j'avais eu, comme mon père était sur le point de décéder, Eh bien, il pouvait, vous savez, il a eu la maladie de Charcot. Si vous connaissez la maladie de Charcot, et c'est une maladie neurologique. Non, ça se guérit pas. Hein, et ça arrive comme ça. Ça se prévient pas et ça se guérit pas. Donc, il est parti assez vite, hein, quand même. Mais à la fin, il ne pouvait plus parler parce que les cordes vocales, tous les muscles ne fonctionnent plus. On dit qu'on est, quand on a cette maladie, on est prisonnier dans son corps. Donc, il avait toute sa tête. Il pouvait écrire un SMS, mais il pouvait pas parler ni tenir quelque chose. Et donc, une fois, ma femme m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Je voulais quand même dire des choses. Elle m'a dit, je peux pas discuter vraiment. Elle m'a dit, mais tu lui fais une lettre. Et j'ai fait une lettre. Et où je lui ai vraiment remercié pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mon père n'était pas parfait. Je ne le suis pas non plus. Et je crois que vous non plus. Donc, des pères ou des parents parfaits, on n'en a pas. Et nous ne serons pas des parents parfaits non plus. Parce que seul Dieu est parfait. Mais, Dieu nous demande d'honorer nos parents, même dans l'imperfection que nous pouvons voir chez eux. Et nous devons leur dire, prenez le temps pendant que les parents sont en vie, de leur dire merci pour ce qu'ils ont fait dans votre vie. C'est très, très important. Très, très... Vous ne savez pas s'ils seront toujours là pour le dire. Après, quand ils sont décédés, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Hein. On dit « si j'avais su, hein, si j'avais su ». Okay. Donc, dites ce que. Dites merci pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Si vous êtes là, c'est parce qu'ils ont œuvré dans votre vie. Alors, bien sûr, encore une fois, il y a des cas où on pourrait dire les parents n'ont pas agi de manière honorable envers les enfants. Et c'est vrai. Il y a des cas d'abus, de beaucoup de choses subies par les enfants. Et on peut se demander, mais comment puis-je honorer mon père ou ma mère, après tout ce qu'ils m'ont fait subir. Mais je voudrais dire que personne n'est aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne n'est aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Même Hitler pouvait être plus mauvais qu'il n'a été. Souvent, on prend l'exemple d'Hitler parce qu'on fait comme si c'était le plus grand. Mais c'est, hein? Même lui pouvait être plus mauvais. Il pouvait faire pire que ce qu'il a fait. Donc, dans ce que nos parents ont fait pour nous, et encore je dis ça c'est le cas marginal, même si tout n'a pas été comme il faut, mais ils ont fait des choses pour lesquelles nous pouvons les remercier, pour lesquelles nous pouvons les honorer. Et quand nous en parlons, nous pouvons choisir ces domaines où ils ont été un exemple peut-être pour nous, et puis dire aux gens, mon père il était comme ça, il a fait ça. C'est une manière d'honorer ses parents. Ne pas parler négativement d'eux, mais parler positivement d'eux. C'est Dieu qui nous demande de faire ainsi. C'est Dieu qui nous demande de faire ainsi. D'honorer, de leur donner la valeur qu'ils ont de parents. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour ce qu'il aura fait. C'est pas à nous de juger. D'accord? Mais nous, en tant qu'enfants, nous sommes appelés à les aimer, à les honorer. À prier pour eux s'ils ont des difficultés dans un domaine ou dans un autre. Avoir un cœur rempli de compassion pour eux. Et à prier que Dieu les aide dans ce domaine particulier que nous trouvons être peut-être un défaut ou un manquement. Mais sachons les élever aux yeux des autres. Dans le domaine où ils doivent être élevés. Et si nous ne trouvons pas, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Certainement, il nous en montrera. Certainement, il nous en montrera. Et tous les parents, la plupart des parents, même avec leurs pauvres moyens, font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, de les honorer. Je termine en disant que la rébellion est une marque d'impiété. On pense que ça vient, il faut que les jeunes soient un peu rebelles, ça fait partie. Non, c'est une marque d'impiété, la Bible dit. Dans Romains chapitre 1, verset 30, et dans 2 Timothée 2, vers 3, verset 2, l'apôtre Paul dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps... » difficile. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, et ce qui vient après, c'est quoi? Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Voilà comment Dieu décrit déjà les choses. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous le voyons. Tout ce que nous voyons se manifester, c'est à cause de la rébellion qui existe dans les cœurs. Rébellion contre Dieu, rébellion contre l'autorité parentale et rébellion contre toutes sortes d'autorités qui existent. C'est ça qui se manifeste aujourd'hui dans nos pays et dans notre monde. le devoir d'honneur envers les parents ne cesse jamais. Même quand ils sont plus là, quand on en parle, il faut en parler avec, de manière à leur rendre honneur pour tout ce qu'ils ont accompli. Et simplement aussi parce que Dieu le demande et parce qu'ils ont été à la place de parents dans notre vie. Et même si nous sommes devenus un grand personnage, peut-être maintenant nous gagnons 10 fois plus que ce que nos parents pouvaient gagner, hein, peut-être qu'ils savent même pas, ils n'ont jamais rêvé de cette somme que nous touchons. Et parfois, il y en a où ça leur monte à la tête, hein, ils finissent par oublier leurs parents, ils finissent par oublier d'où ils viennent. Parfois, il y en a qui oublient de quel quartier, dans quel quartier ils ont grandi. Ils veulent surtout pas qu'on sache qu'ils ont grandi dans le 93 ou quelque chose comme ça, parce que il faut oublier son passé, faire table rase du passé. Eh bien non, même si Dieu nous donne vous accorde cette grâce, n'oubliez jamais, jamais, jamais vos parents. Joseph, quand il était à la tête de l'Égypte, eh bien, son vieux père est venu le voir depuis le pays de Canaan. Et Joseph s'est prosterné, le chef de l'Égypte, se prosterne devant son père fatigué, rassasié de jour et probablement affamé. Il se prosterne devant lui. Lorsque Salomon était dans toute sa splendeur, assis sur son trône, sa mère entre dans le palais, Bathsheba. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève pour aller accueillir sa mère. Il l'honore. Peu importe la position que l'on a atteint, peu importe ce qu'ont été nos parents, la Bible nous dit, honore tes parents, honore-les. Tu obéis, tu écoutes, tu obéis si tu es un enfant. Dieu va te juger pour cela et il dit, tu honores tes parents aussi. Et on aura à rendre compte aussi à Dieu pour cela. Je termine en disant juste que lorsque Dieu envoie Jean-Baptiste au devant de Jésus pour être le précurseur, celui qui va annoncer ce que Jésus va faire, celui qui fait déjà en avant-première ce que Jésus va faire, parce que il prêchait le baptême de repentance. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais dit-il, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et la Bible dit que lui, en venant, eh bien, il allait, écoutez, il dit, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants. Oh, c'est un problème déjà là. Et donc, quand Jésus est venu dans le monde aussi, c'est pour ramener cette structure d'autorité comme elle doit être, surtout dans les foyers chrétiens. Les foyers chrétiens doivent refléter vraiment l'ordre que Dieu a établi. Et Jésus-Christ qui vit dans un foyer, eh bien, ce foyer doit agir d'une manière telle que cette relation entre les parents, relation d'obéissance et d'honneur, existe comme elle doit exister. Que le Seigneur nous aide à pratiquer cela. Nous sommes obligés de reconnaître que nous ne l'avons peut-être pas fait comme nous aurions dû le faire. Vous n'avez peut-être pas obéi à vos parents comme vous auriez dû obéir à vos parents. Mais il n'est pas trop tard aujourd'hui de le faire. Première chose à faire, c'est de se repentir, demander à Dieu pardon, de venir à lui si vous ne le connaissez pas. Et son esprit en nous nous rend capables de vivre ces choses. Son esprit nous rend capables de vivre ces choses. Quand vous vivez ces choses, vous savez vraiment si l'Esprit de Dieu agit en vous. Quand vous obéissez à vos parents et quand vous êtes respectueux et que vous honorez vos parents, comme l'Écriture vous le commande. Celui qui m'aime, dit Jésus, qu'il garde mes commandements. Et ça, c'est le commandement de Dieu pour nous, en tant qu'enfants, aujourd'hui. S'il plaît à Dieu, nous verrons les devoirs des parents envers les enfants la semaine prochaine. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est puissante et qui nous interpelle, et moi le premier. Oui, Seigneur, nous devons confesser que nous n'avons pas été comme nous devrions être, même connaissant ta parole. Parfois, nous nous laissons influencer par ce que nous entendons dans le monde et par les pensées du monde concernant l'éducation, concernant la relation envers les parents, concernant notre attitude envers les autorités. Mais nous te prions, Seigneur, que notre que notre source, que notre base ne soit pas ce qui se passe dans le monde, parce que le monde est corrompu, Seigneur. Que ce ne soit pas ce qui vient de nos propres pensées, nos cœurs, parce qu'ils sont aussi corrompus. Mais que ce soit ta parole qui soit notre standard et notre norme. Ô Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Et aide-nous à la vivre pleinement pour la gloire de ton nom. Amen.